Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Dans cet épisode, nous avons l'immense honneur de recevoir un ancien joueur de football que les supporters du TFC seront ravis de retrouver chez nous, Nicolas Dieuze. Bonjour Nicolas.
Et bonjour, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous à Café & Co aujourd'hui pour nous parler de ton parcours et ensuite nous parlerons de l'association Un Maillot pour la Vie. Donc pour la première partie de cette interview, je suis entouré par des spécialistes sportifs. Nous avons Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Nous avons André.
Bonjour.
Et nous avons Jennings.
Salut Christian, salut tout le monde.
Et merci à vous trois pour commencer l'interview. Alors, avant de donner la parole à nos spécialistes, je voudrais savoir, Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, comme je demande à tous nos invités ?
Bon, ça devrait le faire, je pense, ouais. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Dieuze, je suis un ancien joueur de foot professionnel. J'ai 45 ans depuis hier.
Et oui, voilà. Bon anniversaire.
Bon, merci, c'est gentil. Et je suis très honoré, très fier d'être là avec vous aujourd'hui pour participer à cette émission et passer un moment avec vous. Toutes les questions sont ouvertes, il n'y aura pas de tabou, je répondrai à toutes vos questions.
Mais merci, c'est super et on va commencer tout de suite dans le concret avec Gabriel.
À quel âge as-tu commencé le foot ?
Ouf, donc, je viens de te dire que j'ai 45 ans, j'ai commencé il y a 40 ans. Voilà. Comme un joueur de foot passionné, comme on peut en avoir aujourd'hui, même s'il y en a aussi qui ne font pas forcément toujours ce sport pour les bonnes raisons, mais en tout cas moi à l'époque, je suis toujours passionné de foot, donc je suis natif de la ville d'Albi, dans le Tarn, et j'ai commencé dans un petit club de quartier, et je mangeais foot, je dormais foot, c'est vraiment le sport qui... J'ai connu d'ailleurs qu'un sport, jusqu'à ce que j'arrête donc à l'âge de 35 ans, j'ai connu que ce sport, et qui continue aussi de m'accompagner, puisque c'est aussi le sport qui participe à mon activité professionnelle. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà.
Quelqu'un t'a donné envie de pratiquer ce sport ?
En fait, mon frère, forcément, on est toujours des modèles. Mon frère, il a 5 ans de plus que moi, et il joue au foot. Mon père était éducateur aussi. J'ai plutôt une famille de rugbyman, moi, mais plutôt rugbyman 13iste, je joue à 13, parce que le Tarn était un terreau de rugby à 13. Mais rapidement, alors ce qui est paradoxal, c'est quand même, il faut que je vous le dise, c'est que même si j'étais passionné, je ne me souviens même pas trop, mais la première année, ça a été compliqué. Je pleurais pour aller au football, enfin, je ne voulais pas aller au foot. Alors je pense qu'il y avait autre chose qui ne me plaisait pas, c'était peut-être aussi le fait de... Voilà, d'être avec d'autres personnes. Mais sincèrement, ce souvenir-là, il ne m'a pas hanté. Je ne m'en souviens pas. C'est mes parents qui me le racontent. Et donc voilà, c'est plutôt... Puis après, la télévision, moi, j'ai été baigné dans les années de l'Olympique de Marseille qui gagnait tout. Donc on a toujours des modèles. Les posters de ma chambre étaient bien sûr uniquement consacrés à des joueurs de foot. Donc vraiment, d'abord sûrement mon frère m'a amené au foot, mon père aussi un petit peu, et après tout me plaisait, quoi.
Alors on va avancer un petit peu dans ton évolution footballistique. Quel a été ton parcours pour devenir professionnel ?
Ben, tout simplement, j'ai joué, donc comme je vous l'ai dit, d'abord j'ai joué dans un petit quartier, dans un club de quartier de la ville d'Albi, qui s'appelle Cantepo, et ensuite j'ai joué dans le club qui n'existe plus aujourd'hui, le club des postes, de la poste, ça s'appelle l'ASPTT d'Albi, jusqu'à l'âge de 15 ans, où j'ai été recruté par le Toulouse Football Club pour entrer au centre de formation. Comment ça s'est passé ? Il y a encore, même si c'est un peu différent aujourd'hui le recrutement des jeunes, mais il y avait des sélections départementales, des sélections régionales. Et en fait, je faisais partie des équipes Feu Midi-Pyrénées, puisqu'on parle d'Occitanie aujourd'hui, c'était l'équipe Midi-Pyrénées. Et à ce moment-là, vous aviez tous les recruteurs des clubs pro qui venaient, qui observaient les jeunes avec du potentiel. Et au retour d'un de ces rassemblements, le téléphone fixe, je précise, téléphone fixe.
Et oui.
Pour ceux qui
n'ont pas connu les jeunes.
Ceux qui connaissent pas. On n'avait pas de portable à l'époque, donc en fait le téléphone sonnait et c'était des clubs. Et donc effectivement le Toulouse Football Club m'avait contacté comme d'autres clubs et par proximité, par aussi envie de réussir dans le club de sa région, j'ai choisi de rejoindre le Toulouse Football Club à l'âge de 15 ans.
Ils avaient une école, on pouvait faire sport-études dans le cadre de ça.
En fait,
c'était
un centre, non, il y avait comme beaucoup de clubs pro, un centre de formation, c'est plus que sport-études. Le sport-études, c'est plutôt des classes études qui sont liées au collège, même s'il y en a aussi pour le lycée, mais c'était à l'époque, nous, c'était plutôt très collège. Et au moment d'arriver sur le lycée, ben du coup, je suis rentré au centre de formation. Donc c'est vraiment un cadre qui est géré par le club. Tout est en interne au club. Et tous les clubs professionnels aujourd'hui sont dotés d'un centre de formation, ou à la quasi-totalité.
Et du coup, c'est à partir de quel âge que,
15 ans.
Que tu as pu rentrer dans le groupe pro?
Alors, là, effectivement, donc on a... T'as déjà sauté une étape, mais c'est très juste. Alors moi, je rentre à l'âge de 15 ans au centre de formation. Ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à être salarié d'une entité, donc d'un club. Parce qu'un club, il faut comprendre que c'est une entreprise comme une autre. Voilà, elle a des salariés, et les joueurs de foot sont des salariés comme les autres. Ils ont des droits comme les autres. C'est forcément bien sûr que les salaires sont un peu différents que d'un salarié lambda. Mais en tout cas, le Toulouse Football Club aujourd'hui est une entreprise à part entière. Et donc, il y a des contrats de travail. Et donc, j'ai eu mon premier contrat de travail à l'âge de 15 ans.
Ah ouais, voilà.
J'ai commencé à travailler à ce moment-là. Pour moi, c'était une passion. Hein. C'est absolument pas un travail. Hein. C'était vraiment quelque chose qui me... Je ne me forçais pas du tout à aller travailler. C'était... je voulais faire ce métier. Et donc, j'ai eu 6 ans de contrat de formation. On appelait ça à l'époque des contrats aspirants et stagiaires. Voilà, pour la nomenclature, on va dire, c'était ça. Et j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'âge de 20 ans. Et j'ai joué de 20 à 35 ans, où j'ai été professionnel jusqu'à 35 ans. Voilà.
Et du coup, ils t'ont fait essayer dès le poste de milieu de terrain, ou t'as un peu... pas valdingué, j'ai envie de dire.
Toi, tu as déjà la réponse, je pense. Tu as déjà la réponse. Non, justement, moi, j'ai été formé attaquant. Donc j'ai commencé attaquant, j'ai fait mon premier match professionnel avec Toulouse attaquant, où j'ai la chance de marquer 2 buts contre le Paris Saint-Germain, qui n'était pas le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, hein. c'est pas les Qataris qui étaient propriétaires, mais c'était déjà une équipe qui tenait la route. Et en fait, je joue ma première saison attaquant, j'ai eu la chance de marquer 6 buts pendant cette saison-là. Et à ce moment-là, il y a eu des problèmes financiers du TFC, donc le club je vous parlais tout à l'heure, c'est une entreprise comme une autre, elle a déposé le bilan. Donc le club est reparti à une échelle en 3e division. Moi, pendant ce temps, je suis parti à Bastia, en Corse, jouer en première division. Et puis, je ne prenais pas de plaisir à ce poste-là. J'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, mais finalement, je m'apercevais que pour le haut niveau, j'étais pas forcément, j'avais pas les qualités d'un attaquant moderne. Donc, quand je suis revenu à Toulouse, qui m'avait demandé de revenir quand eux sont remontés de Ligue 2, j'ai décidé de me reconvertir de poste. Et donc, je suis descendu d'un cran et j'ai été milieu défensif quasiment dans la foulée de mon retour à Toulouse. Et j'ai fini ma carrière défenseur central, puisque j'ai fait ma dernière saison dans un petit club de l'Ariège, qui était en 3e division nationale. Et j'ai fini défenseur central. Donc j'ai joué partout. Voilà. Presque gardien.
André ?
Quelle a été ta plus grosse saison ?
Ma plus grosse saison, je dirais que moi j'ai toujours mis le collectif en premier, donc pour moi la plus grosse saison, c'est la saison qui nous a qualifiés avec Toulouse en 2007 pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Voilà, on vit un dernier match fantastique avec un stadium plein où on gagne 3-1 contre Bordeaux et qui nous qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire, parce que moi, j'avais connu, quand j'étais en formation, un club qui vivotait toujours un peu entre la 2e division et la 1ère division. C'était jamais très stable. Et arriver, moi, avec le club de mon cœur à ce niveau-là, ça a été un moment exceptionnel. Même si ça n'a pas forcément été peut-être la saison la plus aboutie, parce que j'ai eu des saisons encore plus intéressantes, mais forcément, le collectif était moins bien, donc... Finalement, moi j'ai toujours pensé que le foot c'est un sport collectif, donc ce qui est important c'est le résultat de l'équipe.
Et donc, c'est un sport collectif.
C'est un sport collectif, on est d'accord. Hein. Mais je vais quand même aussi parler de ma dernière aventure à Luzenac. Donc, je vous resitue le contexte. Luzenac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village de l'Ariège où il y a 800 habitants à peu près. Pour vous situer le contexte, c'est un club qui a parce que la mairie voulait aider avoir un club important, a toujours vivoté dans les 3e, 4e division nationale. Et un jour, il y a un promoteur toulousain qui décide d'investir dans le club et monter une équipe de niveau. Il y avait Fabien, pour ceux qui connaissent Fabien Barthez, je sais pas, ça vous parle, Fabien Barthez, qui était champion du monde en 98, était dans le club aussi. Et donc, on a monté une équipe, donc 3e division nationale. Vous avez aujourd'hui la Ligue 1, la Ligue 2, et la 3e division, c'est celle qui permet de rentrer dans le monde professionnel. Et en fait, la saison qu'on vit, elle est fantastique, puisqu'on se retrouve à jouer le dernier match pour le titre, et on est monté en Ligue 2. Donc on devait, petit village de 800 habitants, monter dans le monde professionnel, donc au niveau de certains clubs de deuxième division. Aujourd'hui, en deuxième division, vous avez quand même Bordeaux, vous avez Saint-Etienne, vous avez quand même des clubs importants. Bon, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas, mais c'était pour vous dire qu'on était un tout petit qui arrivait dans le monde des très grands. Et là, on a été confronté à la réalité parfois obscure de certains milieux où il y a de l'argent. C'est qu'on était trop petit pour être invité à la table des grands. Et donc, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Et donc, le club a été interdit de monter en deuxième division, alors qu'on avait gagné sur le terrain le droit de le faire. Et malheureusement, les dirigeants de l'époque n'avaient pas les ressources financières pour continuer à évoluer en troisième division. Donc le club est retombé en septième division. Ah oui, en fait, ils ont coupé le club complètement. Donc moi, j'avais 35 ans à cette époque-là et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Mais
ça a été un gros regret pour toi, moi, de ne pas pouvoir atteindre.
C'est pas tellement le regret sportif. Moi, j'avais joué en Ligue 1, en Ligue 2. Donc pour vous dire, il y avait
un regret collectif peut-être.
Complètement, et un regret humain, parce qu'en fait, il y avait une aventure humaine qui s'était créée. Je vous parlais de la saison que j'ai le plus aimé, c'est forcément celle qui nous qualifie pour la Ligue des Champions avec Toulouse, mais celle-là, l'aventure humaine qu'on a pu créer avec cette équipe-là, elle était fantastique. Et je pense même que si on était monté en Ligue 2, peut-être qu'on aurait pu monter en Ligue 1. Et je rigole pas, parce que l'équipe qui est montée à notre place, en fait, elle est montée en Ligue 1, après.
Et oh, y a plein
en nous prenant le meilleur joueur, pour vous dire qu'on aurait très bien pu faire des choses.
Mais il y a plein de clubs qui ont réussi à faire l'ascension de National Ligue 2 en Ligue 1 directement.
Ouais. C'est vrai.
Comme Evian Thonon-Gaillard, par exemple.
Évidemment, à l'époque, il y avait Arles Avignon qui l'avait fait aussi. Ouais. Il y a eu des clubs, donc c'est pour ça que... Sauf que nous, on nous a coupé l'herbe sous le pied, on ne nous a même pas permis d'aller batailler sur le terrain. Donc moi, j'avais 35 ans, j'ai arrêté, et c'est là après que j'ai basculé sur ma seconde activité, ma vie professionnelle, puisque je suis agent de joueur de foot aujourd'hui, et voilà, on aura peut-être encore une fois l'occasion d'en parler.
Combien de buts as-tu marqué dans ta carrière ?
Écoute, je crois que je suis... Alors, effectivement, j'ai démarré attaquant. Dans ma première saison, j'avais marqué 6 buts. Après, ça a été un peu plus compliqué d'en marquer chaque année. Mais je crois que je suis arrivé à 26 buts, je crois, sur ma saison en Ligue 1. Enfin, sur ma saison. Pas sur une saison en Ligue 1. Sur tous mes matchs de Ligue 1, en fait, sur toute ma carrière, j'ai dû marquer 26 buts.
Bon, ben, si vous voulez, je prends la parole.
Vas-y.
Ouais, ben alors, quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué? Et contre qui, également, tu as joué qui, pour toi, est le meilleur joueur?
Moi, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, alors, je ne sais pas si c'est les amateurs de football qui vont le savoir. Déjà, il a arrêté. Voilà. Et ce n'était pas à Toulouse, c'était à Bastia. C'est un joueur qui s'appelle Michael Essien, qui a joué à Lyon, au Real Madrid, à Chelsea, à Milan.
Ah, bah oui.
Voilà. J'ai joué avec Mika et pour moi, c'était tout ce que le. Pour moi, il incarnait le professionnalisme, tout ce qu'il fallait pour être au niveau, quoi, à la fois la qualité footballistique et les qualités humaines. Après, j'ai eu des joueurs fantasques et extraordinaires à Toulouse aussi. Vous vous rappelez d'Achille Emana, mais. Forcément qu'Achid, il n'avait pas toute la panoplie du joueur pour être dans des grands clubs. Le truc, il avait la folie, mais il manquait un peu la rigueur. C'est pour ça qu'il était aimé, c'est aussi pour ça qu'il était parfois détesté, parce qu'il était capable du tout et de passer au rien le lendemain, quoi. Mais c'était un joueur extraordinaire. Et contre qui j'ai joué? J'ai joué contre Paoletta, qui était un des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain, forcément. Karim Benzema, quand il était à l'Olympique Lyonnais. Atem Ben Arfa aussi, pour ceux qui connaissent. Ouais. Voilà, donc j'ai joué contre ces joueurs-là qui sont quand même des. Mais j'ai joué contre plein de bons joueurs. Après, en Ligue 1, il y en avait des joueurs internationaux.
Oui, il y avait Johan Elmander en attaque qui était incroyable.
Johan aussi a joué avec moi aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Yeah. Non, il y a. C'est fait de rencontres tout au long de la carrière. On joue avec des joueurs, on joue contre des joueurs. Et puis, on crée aussi des affinités, des amitiés. Donc,
Oui, bien sûr. Il y a une amitié hors le match et ensuite on n'est pas amis pendant le match, mais on l'est ensuite à la fin.
Exactement, il y a de la rivalité pendant le match et il y a des joueurs d'ailleurs qui avaient deux personnalités. Ils avaient des personnalités sur le terrain, ils étaient odieux, insupportables. Et à côté de ça, après, ce sont des mecs en dehors, mais c'est aussi ça, les compétiteurs. Et c'est un peu, oui.
Un peu comme Sergio Ramos, quoi, par exemple.
Comme Ramos, mais comme d'autres. Moi, j'ai pareil, à l'époque, j'ai joué à Toulouse, il a joué qu'une saison, mais. Pour ceux qui sont amateurs le connaissaient, Florent Balmont. Flo Balmont, c'était insupportable.
Ah
c'était un insupportable sur le terrain. Et finalement, à la fin, tu peux aller boire un coup avec lui, il n'y avait pas de souci. Voilà, c'est la compétition. On essaie de ne pas se faire de cadeaux.
Avais-tu un idole ?
Quand j'étais minot, ouais, jusqu'à 12-13 ans, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais bercé par les années de l'Olympique de Marseille, donc 93, champion d'Europe, 91, ils perdent la finale contre Barry. Bon, pour certains, vous étiez sûrement très jeune, voire pas né, je ne sais pas, voire pas né. Non, je ne sais pas. Bon, bien sûr, Jean-Pierre Papin, peut-être c'est des noms qui vous parlent. C'était un buteur qui marquait 30 buts par saison. Et ensuite, j'avais eu la coupe de Chris Waddle. Quoi. Donc voilà, Chris Waddle, c'était le joueur de l'Olympique de Marseille qui faisait des dribbles. Ça a été un des premiers joueurs un peu comme ça, fantasque, que l'Olympique de Marseille avait recruté. Mais c'était, je vous parle d'un temps, que moins de 20 ans, 45 ans, j'avais 13 ans, donc ça fait 30 ans quand même. Hein. 30 ans, donc... Voilà, pour ceux qui ont internet, vous regarderez Chris Waddle.
Avec un pénalty obtenu lors d'un match où normalement, avec la VAR, c'est carton jaune pour lui.
Ouais, il y a eu des choses. Et puis, non, il y a eu des matchs fantastiques. Le match de Milan AC, quart de finale, ah oui. Avec l'éclairage qui s'éteint. Ah oui, voilà. Il avait pris un coup sur la tête, il marque un but exceptionnel, il ne se souvient pas de son but. Il a joué, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, il était un peu dans l'état second. Alors vous imaginez l'ambiance à l'OM, pour ceux qui sont déjà allés à l'OM, voir un match, c'était la folie. Voilà.
Mais du coup, tu as gardé des contacts avec d'anciens partenaires avec
Oui, j'ai mangé à midi avec Panty Siriex, pour ceux qui le connaissent. Qu'on est en train de ça fait 2 ans maintenant qu'on monte avec l'amicale des anciens du Stade Toulousain un match qu'on a appelé le trophée Cunavor et Revaux, qui a été mon collègue. Ce sont deux joueurs décédés, bien sûr, pour ceux qui le savent. Et donc, on a décidé depuis 2 ans d'organiser un match entre les anciens. En récoltant des fonds au profit de l'association Moyeux pour la vie. Voilà, en gros, on essaie, au moins comme ça, la boucle est bouclée. Et donc, on est en train de préparer le match. Et on sait que vous avez l'exclusivité, le match il se fera le 5 mai. Voilà, on a calé la date. Le dimanche 5 mai. Vous êtes conviés, bien sûr, mais vous aurez les informations et voilà, vous serez conviés à venir.
Quel est ton coach préféré ?
Déjà, j'ai eu mon coach qui est un jeune, parce que je pense qu'une carrière aussi, elle se fait avec des rencontres. Moi, il y a 3 personnes qu'on comptait, enfin 2 et puis le dernier que vous connaissez, je vous en parlerai parce qu'il a, je suis encore en contact avec lui. Mais j'ai eu un éducateur, moi, à Albi, qui m'a permis de vivre de ma passion. Je vois trop de, en tant que papa, parce que je suis papa aussi, forcément 2 enfants et qui jouent au foot, je vois trop de choses autour des terrains que je vivais pas à l'époque et tant mieux. Et qu'on était là pour s'amuser, on avait un coach qui nous faisait aimer ce sport, aimer le foot. Il s'appelait Patrick, il est décédé lui aussi il y a quelques années et ça a été quelqu'un qui a vraiment, je pense, participé à ce que je suis aujourd'hui en tant qu'homme et le joueur que j'ai été. Donc ça, c'est une rencontre importante dans ma vie. Celui qui vous fait jouer le premier match aussi, forcément qui vous fait confiance. Et moi, il s'appelle Robert Nouzaré, c'est lui qui m'a fait jouer, donc il est forcément important dans ma... Il avait eu un flash, il disait quand il m'a fait jouer, j'avais marqué mes 2 buts, il dit mais qu'est-ce qui vous a appris les journalistes, qu'est-ce qui vous a appris à faire jouer ce jeune. Et il dit j'ai eu un flash, il me faisait penser à un joueur que j'ai eu à l'époque, et voilà, bon. Ça a fonctionné. Pour l'anecdote, d'ailleurs, je joue ce match-là contre le Paris Saint-Germain. Mais je devais jouer la semaine d'avant mon premier match à Lyon, qui était à ce moment-là l'ogre absolu, qui battait tout le monde. Et par chance, intempérie, match annulé. Donc, parce que je vous dis ça parce que autant je joue ce match-là en tant qu'attaquant, vous êtes à l'OL, vous touchez pas beaucoup de ballons. Et peut-être que le match, je suis transparent et le match d'après, je joue pas. L'histoire a fait que le match a été reporté, j'ai pu jouer mon premier match contre Paris à domicile et je marque 2 buts et c'est ce qui lance ma carrière. Donc vous savez, la vie elle est faite parfois de hasard, de chance, moi, de chance et d'opportunité. Après vous les mettez sur le même niveau de valeur, enfin, en tout cas opportunité, chance, pour moi il faut les saisir. Elles sont là et j'ai trop vu des joueurs beaucoup plus talentueux que moi me dire j'ai pas eu de chance. Je pense que surtout t'as pas su saisir la chance ou l'opportunité et il faut les créer les chances. Voilà. Donc,
c'est Toulouse qui avait gagné ce jour-là.
On a perdu, j'avais marqué 2 buts, on a perdu 3-2 et on menait 2-1 et c'était quand même un bon souvenir malgré tout pour le coup quand on joue son premier match. Parce que bon, après derrière ça s'excite, je suis invité à France 3 à la télé, je passe sur Canal+, enfin voilà, il y a tout qui explose quoi.
Et le fait de ne pas avoir pu aller en équipe de France, ça n'a pas été un échec
J'avais pas le niveau pour l'équipe de France. Non. Moi, j'étais un joueur de club. Un joueur de club et j'avais pas le... Non, j'ai jamais eu la prétention d'y aller. Mm-hmm. Et j'ai absolument pas de regrets. Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire par rapport à mes qualités. Et j'ai donné le maximum avec des gens qui se souviennent de moi en bien, d'autres en mal. Mais j'ai donné l'action. Finalement, la plus belle récompense, ça pourrait être comme me dire que voilà, t'as été... tu as été un très bon joueur de club, on se souvient de du côté combatif, généreux que tu avais, moi ça me suffit.
Pratiques-tu toujours le football en loisir ou en compétition?
Non.
Ah, ça c'est un regret, on dirait.
Non, pas du tout, au contraire. Non, c'est paradoxal, c'est que j'ai plus envie de jouer au foot. Ah. J'ai plus envie, ça me manque pas du tout. Je suis souvent appelé par une équipe de vétérans qui m'appelle les Barbarians. J'y vais de temps en temps parce que j'en ai marre de leur dire non, mais je suis pas en manque de pratique du foot.
C'est pas trop l'âge, mon frère il a à peu près ton âge et il en a
plus. Non, non, moi je vois des joueurs qui jouent encore à 50, 55, 60. Voilà. Et non, en fait, alors ça peut s'expliquer comment? Ça peut s'expliquer par le fait que j'en ai beaucoup fait, certes, mais c'est surtout que j'ai l'impression que je régresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je suis quand même un compétiteur et un challenger, tous les sports que je démarre aujourd'hui, comme je démarre à zéro, je ne peux que progresser. Et je sens que je progresse. Donc je fais beaucoup de boxe d'ailleurs depuis quelques années, boxe anglaise, boxe thaï. Je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et du coup, le foot avec parcimonie. Ça ne m'empêche pas d'adorer le foot encore, hein, d'être passionné, de regarder des matchs. Je regarde en permanence des matchs. Mais pratiquer le football, je n'ai plus trop envie.
Tu suis le TFC?
Évidemment, je suis allé tous les matchs. Donc non, je suis le foot, je connais, c'est mon métier aujourd'hui, donc il faut que je suive le foot, mais le pratiquer, voilà, ça ne me manque pas.
D'ailleurs, on parlait d'entraîneur tout à l'heure, mon petit doigt qui est mon père m'a appris que tu avais été aussi entraîneur à Balma à une époque, alors où tu jouais ton fils.
Oui, exactement. J'étais entraîneur une année, hein, parce que c'était mon fils qui jouait, voilà, mais après, je n'ai jamais eu cette envie de prolonger le plaisir d'être entraîneur, même si parfois je me pose des questions sur certains, le niveau de certains. Mais bon. Et j'ai oublié de parler pour l'entraîneur, je vous dis un troisième, c'était Eli Bob quand même qui a compté, parce que je pense que c'est un coach qui a marqué l'histoire du club, et j'ai beaucoup apprécié son côté aussi charismatique, les valeurs qu'il véhiculait. Voilà. Mais en fait, je vous dis ça, mais à sa façon, Eric Bomber, ça m'a marqué aussi, parce que c'est lui qui m'a reconverti. Donc, quelque part, vous avez dit, il y a beaucoup de gens qui comptent. Même ceux qui ne vous ont pas aidé, eh ben, quelque part, ils vous ont permis de vous façonner. Et puis, les obstacles, ils vous permettent d'avancer de faire ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, même ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues, eh ben, quelque part, ils m'ont aidé sûrement.
Justement, avant qu'on passe à la seconde partie pour parler un peu de ta reconversion, est-ce que mes collègues, vous avez encore quelques questions sur le foot? Parce que le temps passe, donc je ne sais pas si...
Non.
Quelle est ta vision du jeu du TFC aujourd'hui, qui a été repris par Redbird? Et du coup, tu trouves quand même qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ton époque?
Oui, énormément. Ouais. Énormément, déjà dans le stade. Je trouve qu'ils ont fait un boulot énorme de faire venir des gens, des jeunes, beaucoup de jeunes supporters. Le public s'est rajeuni. Et c'est top, et une ambiance que moi j'ai pas connue. Alors, j'ai connu avec certains matchs qui étaient fous, avec un stade plein, mais on sent qu'aujourd'hui, tous les week-ends, quel que soit le match, il y a une vraie ferveur, et on sent que les gens ont adhéré au projet, donc ça c'est top. Bah, rien qu'à voir l'année dernière, l'aventure de Coupe de France et le titre a été quelque chose d'historique et de magique. Bien sûr, après, les dirigeants, je les connais, j'ai moins d'aujourd'hui d'attache dans le club que j'avais avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, ça m'empêche pas d'être toujours bien reçu. J'ai un regard positif sur ce que le club fait. Après, on en parlait en off par rapport à leur modèle de data, de recrutement de data. Et la data, il faut dire qu'elle aussi, elle est à tous les niveaux. Hein. Ils recrutent même des directeurs de communication sur de la data. Enfin, tout est régi par la data.
T'en penses quoi justement?
J'en pense que moi, comme beaucoup, il faut juger sur les résultats. Les résultats sont plutôt bons. Ouais. On met en avant, parce que les résultats collectifs sont bons, les réussites. Il y a aussi eu des échecs dans le recrutement. Et c'est logique parce que je pense que dans ce traitement de la donnée, il faut tout analyser. Il y a un aspect humain qui est peut-être moins important. Quand j'ai dit humain, il y a de l'humain au club, il n'y a pas de souci, mais l'œil humain de visionnage, il est peut-être moins important au TFC. Donc forcément que dans ce que vous cherchez, peut-être la donnée peut se tromper. Il y a eu des échecs et aujourd'hui, ils sont compensés par beaucoup de réussites en termes de recrutement et qui sont validés par des résultats. Donc c'est top. Moi, j'ai rien à dire. Et cette année, elle est difficile parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Ils ont gagné le match qu'il fallait là, à Reims. Ouais. Je pense qu'ils vont embêter Benfica, très honnêtement. Ils vont les embêter. Et ça peut être une super parcours.
Et comment tu peux expliquer la différence entre le niveau, j'ai envie de dire, de la Ligue 1 et de la Ligue Europa? Parce que bon, on voit que le TFC est malheureusement dans les derniers de Ligue 1 et se bat pour le maintien. Et au contraire, en Ligue Europa, ils arrivent quand même à être assez performants.
Deux compétitions différentes. Un côté influx que vous laissez. On l'a vécu dans l'année où on se qualifie pour la Ligue des Champions. On fait l'Europa League. Et que vous le vouliez ou non, vous y laissez du jus dans ces compétitions-là. Donc,
c'est
vous
plus
remettez...
stimulant, quoi, un peu comme la Coupe de
c'est
France.
C'est forcément stimulant parce que c'est nouveau. C'est une certitude. Après, vous êtes aussi attendu de la championne de France. Toulouse n'est plus un petit club. On sait que c'est pénible de jouer Toulouse. Je peux vous dire que pour parler avec des clubs, c'est pénible. Quand, vous venez, quand je dis pénible, c'est pas, vous savez que ça ne va pas être simple. Donc, il faut donner. Après, l'enchaînement des matchs, vous avez beau avoir un effectif un peu pléthorique, vous avez quand même du mal à enchaîner les matchs. Et je trouve que la saison, elle n'est pas si mal quand même. Parce que bon, je crois que tu es 12e aujourd'hui ou 14e.
14e. Hein,
ouais. 14e. Bon, tu batailles pour le maintien, mais tu as quand même pris un peu. Je pense qu'il y a des équipes qui sont plus faibles que toi. Clairement, je ne pense pas qu'il faut il faut pas être inquiet par rapport à la relégation.
Et en termes d'animation offensive, j'ai l'impression que le TFC a souvent joué ces 10-15 dernières années, surtout en 3-5-2 ou en 4-5-1. Est-ce que tu trouves que l'attitude des coachs est peut-être un peu trop frileuse par rapport aux capacités des joueurs et que peut-être il faudrait mieux être plus offensif que le club ne l'a été ces dernières années?
En fait, déjà, tu parles de 3-5-2, de 4-2-3-1, tout ça. En fait, l'envie de jouer vers l'avant, elle est pas liée au ton système de jeu. Tu peux jouer avec soi-disant 3, on dit 5-3-2, 3-5-2, peu importe, et être très offensif. C'est ta volonté des joueurs de sortir de leur cadre, d'aller vers l'avant.
Oui, suivant ce que tu fais avec les pistons.
Oui, mais c'est pas une question de système. Il y a des systèmes 3-5-2 qui sont très offensifs. Comment tu situes tes joueurs sur le terrain? Est-ce qu'ils sont sur plus bas, milieu, plus, fin, le système, il n'a rien à voir. C'est l'animation qu'en font les joueurs. Aujourd'hui, je pense que cette année, l'équipe a perdu en qualité au milieu de terrain, puisque l'année dernière, il y avait des joueurs qui sont rentrés dans la légende. Aujourd'hui, les Deyagereux, Van Den Boonen et Spierings, qui est revenu, mais qui n'est pas le même joueur sans ces deux joueurs-là. Et donc, forcément, quand tu as une maîtrise technique qui est différente dans le cœur du jeu, tu as forcément une animation sur les côtés qui est différente aussi. Donc ta créativité, t'as perdu en créativité, je pense. Et du coup, tu as des joueurs aujourd'hui qui sont des bons joueurs, qui courent beaucoup, qui font maintenant on parle de courses à haute intensité, et qui répondent de présent, mais forcément, tu as moins de maîtrise collective. C'est ce que je ressens. Après, ils ont fait des matchs bons, des moins bons matchs, mais bon, finalement, c'est le cours d'une saison, quoi.
Et juste, tu y étais lors de la rencontre TFC-Liverpool?
Oui, j'étais, ouais.
C'était incroyable. Hein.
C'était incroyable, ils ont fait un match incroyable. Pour le coup, à tous les niveaux, il y a eu même des buts qui étaient pour moi, qui étaient très créatifs. Il y avait ce que j'appelle souvent le supplément d'âme, quoi. Le truc qui te fait sortir le geste au moment où on l'attend pas, quoi. Voilà, parce que tu es porté par une forme de pression, mais pression positive, d'engouement. Tu sens qu'il y avait une atmosphère qui était vraiment particulière ce jour-là.
Tout à fait, oui.
Mais Gabriel, Andri et Jenning, merci de nous avoir accompagnés pour la première partie de cette interview. Jenning,
merci,
je sais qu'on ne t'arrêterait pas. Mal passionné, c'est super. Mais comme on travaille en équipe aussi, je vais me tourner vers Yann et Sébastien pour recomposer notre équipe. Mais nous poursuivons l'interview de Nicolas Dieuz et maintenant j'ai une nouvelle équipe de journalistes pour m'accompagner. Nous avons Yanis.
Bonjour.
Nous avons Wassim.
Bonjour.
Et nous avons Thierry.
Tout à fait, merci.
Merci
Christian.
Thierry. Alors maintenant, voilà, nous avons un peu parlé de ta carrière sportive. Alors on sait, Nicolas, qu'il y a une étape qui est toujours compliquée pour les footballeurs, c'est la reconversion professionnelle. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu préparais depuis longtemps? Est-ce que ça s'est fait par hasard?
Alors moi, j'ai la particularité, je ne sais pas si c'est la particularité, je n'aime pas ce terme, je ne sais pas, mais pendant ma carrière de footballeur, j'ai toujours essayé de m'intéresser à plein de choses, d'être curieux, parce que je pense que curieux, c'est une qualité. Et du coup, j'ai toujours essayé d'entreprendre, en fait. J'ai créé des affaires, j'ai monté des restaurants, des affaires. Et du coup, quand je me suis arrêté, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. Et malgré toutes mes tentatives de faire des affaires en dehors du foot, j'ai dit que quand même, ce qui me plaît le plus, c'est le football. Et donc, en fait, c'est vrai que naturellement, on pense de suite au métier d'entraîneur, aux métiers qui sont environnants au métier de footballeur. Mais je ne voulais pas forcément repartir dans un schéma, bouger de chez moi, embarquer la famille. Et le métier d'agent, en fait, s'est présenté à moi par mon ancien agent et qui m'a proposé de rejoindre son cabinet d'agent. Et j'ai commencé le métier comme ça.
Alors j'ai vu que mes collègues sont très intrigués justement par le métier d'agent, alors je leur laisse la parole pour te poser des questions.
Comment un agent de joueur gagne sa vie?
Ben, comme ça, de suite, on rentre dans le vif du sujet.
Ah, ils sont directs, ça rigole pas.
Non, mais c'est très simple en plus, c'est très simple. Donc, moi, je suis agent de joueur de foot, parce qu'il y a des agents qui peuvent être des agents de club. En fait, c'est déjà un préambule pour être agent de joueur de foot, ce qu'on appelle un agent sportif. Il faut une licence. Cette licence, elle est proposée par les fédérations sportives. Donc, j'ai le même diplôme qu'un agent de rugby, qu'un agent de basket, qu'un agent de volley ou de handball, à l'exception, j'ai un tronc commun, ce qu'on appelle un tronc commun, tout ce qui est lié au droit, en fait, c'est le même. Sauf que moi, j'ai passé une spécificité football. Le rugbyman, forcément, il a passé la spécificité rugby. Et que moi, si je veux être agent de rugby, je dois passer la licence, la partie rugby. Mais ce que je veux dire, c'est que les fédérations gèrent cette partie-là. Donc déjà, première chose, n'est pas agent qui veut, n'est pas agent qui prétend l'être tout le temps, parce que c'est un métier encadré, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, à partir du moment où j'ai cette licence, je peux être mandaté ou par un club qui veut vendre un joueur ou qui veut acheter un joueur, mais la plupart du temps, je suis mandaté par un joueur. Moi, ce que je veux, c'est créer une carrière d'un joueur. C'est pour ça que je travaille avec des joueurs qui ont de 16 ans à 35 ans pour le plus vieux. À 35 ans, c'est compliqué de créer une carrière.
Ah oui, tu suis la révolution, quoi. C'est chouette.
Ben, l'idée, c'est ça. Alors, celui de 35 ans, on a commencé à travailler avec lui, qu'il avait 26-27 ans. Parce que malgré tout, on récupère aussi des joueurs dans leur parcours. Mais moi, l'idée, c'est que j'aime récupérer, ou en tout cas travailler, pas récupérer, c'est commencer à travailler avec des joueurs de 17, 18, 19 ans qui démarrent une carrière avec des qualités, bien sûr, que j'ai identifiées, et les aider à grandir. Parce que dans mon métier, j'y vois deux parties, la partie sportive, donc la partie expertise. Je suis un ancien joueur de foot. Peu d'agents de joueurs de foot sont anciens joueurs de foot, parce que certains sont là aussi par pure opportunité entrepreneuriale. Voilà, il veut être agent, créer une affaire et puis vivre de ça. C'est légitime, mais jamais quelque chose qu'ils n'ont pas eux, c'est l'expérience d'un joueur de foot. Donc il y a ça, et après il y a la partie négociation des contrats, réseau avec les clubs, promotion des joueurs auprès des clubs. Et donc comment je gagne l'argent? Ben, simplement, quand un joueur signe un contrat dans un club, moi, je suis rémunéré sur le salaire du joueur de foot. Voilà, donc je vous prends un exemple. Si le joueur il gagne 100, moi, je peux gagner entre 7 et 10% de 100. Voilà, c'est une rémunération annuelle. Je suis payé en une ou deux fois et ça varie. Donc, voilà. Forcément, plus le joueur est payé, mieux je suis rémunéré.
Comment se négocie un transfert?
Alors, comment se négocie un transfert? La plupart du temps, en fait, la règle veut qu'un club acheteur prenne contact avec le club vendeur. Alors, c'est pas comme vous n'avez pas des sites où c'est pas le bon coin. Hein, c'est pas, pas un club qui dit je mets en vente. Voilà. Donc, c'est plus ou moins déjà nous au travail, on sait qu'il y a des, on sait par exemple si le joueur est à un an de la fin de son contrat, logiquement le club va être enclin à le libérer moyennant une indemnité de transfert. Parce qu'il sait que s'il attend un an, vous connaissez le cas Mbappé aujourd'hui, Kylian Mbappé aujourd'hui va se retrouver libre au 30 juin 2024. Donc ça veut dire qu'il va partir de Paris, parce que pour moi il va partir, sans avoir d'indemnité de transfert versée au Paris Saint-Germain. S'il était parti l'année dernière, il y aurait une indemnité. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? C'est qu'il y a un club vendeur, un club acheteur, et ensuite il y a une négociation de gré à gré entre le joueur, donc l'agent du joueur, et le club qui le veut. Une fois qu'on est tombé d'accord sur les conditions de rémunération et qu'on est d'accord pour que le joueur rejoigne ce potentiel club acheteur, ensuite il faut tomber d'accord sur les conditions de sortie. Donc c'est là que se négocient les transferts. Donc il y en a un qui veut 5, l'autre il veut 20, ça monte à 7, et après c'est de la négociation. Parfois on a l'impression d'être sur un marché, mais bon, c'est comme ça, ni plus ni moins.
Mais merci en tout cas, c'est super intéressant de nous faire partager ton expérience. Thierry, peut-être sur les dernières questions d'agent?
Oui, tout à fait. Merci Nicolas.
Pas de soucis.
Jusqu'à là, tu me fais un parcours sans faute.
Bon, ça va. On va voir si je continue. J'ai la pression.
Non, il ne faut pas. Quel est pour toi le joueur phare pour lequel tu travailles, d'une part? Ça, c'est ma première question. Tu travailles pour quel?
Dis-moi, quel
joueur? Pour plusieurs joueurs?
Plusieurs joueurs, obligatoirement. En fait, donc déjà, moi, je n'ai pas de joueurs internationaux pour lesquels je vais vous citer un nom et que vous allez vous dire « Ok, je connais ». Ce sont des très bons joueurs de Ligue 1 qui gagnent des salaires assez intéressants qui me permettent moi aussi derrière après de pouvoir vivre de ce métier-là, puisque après moi j'ai une entreprise à faire tourner.
Ben ouais.
Et donc
et une famille.
Oui, mais une famille ça c'est. déjà, il faut que quand je me dépasse, par exemple, j'étais avant-hier à Auxerre, hier j'étais à Paris, j'ai vu le match, j'ai 4 joueurs à Brest en fait. Donc donc du coup forcément
4 joueurs à Brest.
Ouais, 4 joueurs.
Ah oui, quand même.
Waouh. Donc du coup forcément, c'est un club dans lequel on a pas mal de connexions et donc je suis allé voir le match hier. Il y avait le gardien parce que c'est le gardien qui a joué hier, c'est le numéro 2. Et donc, en fait, ce sont des joueurs de Ligue 1. Voilà, à Brest, s'appelle Pierre Lesmelou, Mathias Pereira-Lage, Brendan Chardonnay et le gardien qui s'appelle Grégoire Coudert. Après, vous devez vous rappeler, pour ce consulter le TFC, il y a 2 ans, enfin, sur la montée de Ligue 2 à Ligue 1, il y avait. Je ne travaille pas avec Amin Adli, mais c'est la génération d'Amin Adli, de Manu Koné. Et donc, c'est Nathan Goumou avec qui je travaille.
Oui.
Pour ceux qui le savaient. Donc, voilà. Donc Nathan, il est en Allemagne aujourd'hui. Et j'y vais samedi d'ailleurs, le voir. Voilà, donc après. J'ai un joueur à Lens qui s'appelle Morgan Guilavogui, j'ai un joueur à Strasbourg qui s'appelle Jean Daoulou. Voilà, c'est ce genre de joueurs aujourd'hui qui sont connus par des amateurs de football, qui suivent le foot, voilà, qui ne sont pas connus par une personne lambda qui s'intéresserait simplement à l'équipe de France.
Et qui le seront peut-être dans quelques années.
Il a compris le système.
Voilà. Et tout autre, est-ce que éventuellement tes déplacements te sont payés? Ou te sont à ta charge à toi?
Ah ben oui, c'est ce que je te disais, c'est l'entreprise qui prend. Enfin, je suis actionnaire majoritaire de l'entreprise. Oui. Voilà, on est deux dans la société. Et donc je dois moi avec ce que je rends dans la société payer mes charges, donc les déplacements, les hôtels, les transports, tout ce qui est lié à le fonctionnement d'une entreprise. Et ensuite moi j'essaie de faire en sorte qu'il en reste pour que je puisse moi me rémunérer. Et Dieu merci, pour l'instant ça se passe bien. Voilà.
Merci Nicolas en tout cas de nous avoir parlé du métier d'agent, parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'a pas forcément une très bonne image, mais on s'aperçoit que
tu vas me fâcher.
Et maintenant nous allons parler de toute autre chose, parce qu'en plus tu as un engagement associatif très fort.
Oui.
Tu es président d'honneur, je crois bien, de l'association Un Maillot pour la Vie.
C'est ça.
Donc est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots cette association?
L'association elle a plus de 20 ans, hein. Je ne compte même plus les années après la 20e, du coup je me trompe tout le temps. C'est une association qui a pour vocation première d'améliorer simplement le quotidien des enfants malades dans les établissements de santé et en dehors des établissements de santé. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire sortir les enfants pour les amener sur des lieux de compétition sportive à la rencontre des sportifs. Donc je vous le disais, soit dans les établissements de santé, hôpitaux ou ASEI ou autres, et derrière de pouvoir créer des liens et de les amener sur des événements majeurs qui peuvent être simplement un match de Ligue 1 ou de Top 14, comme des Jeux Olympiques, pour lesquels aussi l'association va être impliquée dès cette année avec, vous le savez, un événement majeur à Paris. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, juste d'améliorer, d'égayer le quotidien des enfants.
C'est ça,
des rêves. Donc comment ça se passe concrètement? Christian sait bien, parce que tu me transmets le comment ça fonctionne. C'est-à-dire que sur les événements organisés dans les hôpitaux, à travers les rencontres, je dis hôpitaux, c'est pour généraliser les rencontres. Il y a plein d'établissements différents, il n'y a pas que des hôpitaux, mais c'est pour vous dire, voilà, les rencontres entre les enfants se font avec des sportifs qui interviennent. Ils passent un moment de joie, de convivialité, des animations, des jeux, en fait, ils créent du lien. Et on récupère à ce moment-là ce qu'on appelle un passeport de rêve. Et donc l'association va aussi bien que possible, dans la mesure du possible, répondre aux attentes et aux rêves des enfants. Donc c'est très vaste, donc elle ne peut pas tout faire parfois, parce que des fois des choses qui sont un peu trop inaccessibles pour l'association, mais dans la mesure du possible, elle essaie de répondre à un maximum. Je vous disais, c'est des rencontres avec des sportifs importants. C'est même parfois aussi, ça dépasse le cadre du sport. C'est
des footballeurs, mais pas que, je crois.
Non, pas que. Ouais. Ben, de toute façon, déjà, le parrain, il y a deux parrains prestigieux de l'association qui sont Antoine Dupont et Léon Marchand aussi. Vous savez que Léon Marchand, qui va être, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez voir ce qui va se passer aux Jeux Olympiques. C'est un nageur connu. Et pour la petite histoire, sa maman est bénévole à l'association. Donc en fait, c'est une ancienne nageuse. Xavier, son papa, était aussi un ancien très bon nageur d'Étoffes et du Touec. Et il se trouve que Léon est toulousain. Léon, donc, a ses parents investis dans l'association. Il est devenu parrain de l'association. Donc vous allez voir, aux Jeux Olympiques, Léon Marchand va être une star des Jeux Olympiques de Paris. Retenez bien son nom, Léon Marchand. Donc il est parrain. Voilà. Et pour vous dire, c'est des rencontres en permanence. En fait, toutes les semaines, il y a des événements qui sont organisés. pour l'anecdote aussi, l'association Mais pour la vie fait partie de Toulouse Fondation, Toulouse Football Cœur, c'est la fondation du TFC.
C'est pas toi qui l'as créé au départ l'association,
hein, Non. C'est, moi j'ai été parrain de l'association, j'ai membre actif et aujourd'hui je suis président d'honneur. Bon, il se trouve que ma femme travaille dans l'association, donc c'est aussi pour ça que je suis quand même pas mal impliqué aussi. Et pour vous dire que ça dépasse le cadre du sport, on a une très bonne relation aussi avec Big Flo et Oli. Olivio est parrain de Toulouse de Football Cœur, et donc il a demandé, pas plus tard qu'il y a 10 jours, d'organiser une rencontre avec des enfants d'une association qui était rattachée à Toulouse Football Cœur. Il se trouve que ce sont une vingtaine d'enfants de l'association Mais pour la vie qui ont rencontré Olivio en un moment privilégié. Et ça fait partie, c'est pas un sportif, Olivio, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait rêver. Et voilà, c'est ce genre d'événement qu'on organise en permanence.
Yannis, Wassim, vous voulez prendre des questions ?
Que faites-vous en tant que président d'honneur ?
Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, ce que je fais là aujourd'hui, je parle de l'association. Moi, je dis souvent, parce qu'il y a un président, je dis président d'honneur parce que moi, je ne suis pas dans les statuts. Vous savez, une association, vous avez une association. Aujourd'hui, vous avez un président, vous avez... Voilà. Moi, je ne suis pas dans les statuts, je ne voulais pas y être. Mais je savais que forcément, de par ma carrière, ma résonance, petite résonance médiatique pouvait aider l'association. Donc, j'avais dit, j'aurais un rôle. Et donc, on m'a donné le rôle de président d'honneur. Il est un peu pompeux, le titre. Mais moi, en fait, je suis là pour parler de l'association, pour mettre en avant ce qu'elle fait, parce que je sais très bien ce qu'elle fait et le bonheur qu'elle amène aux enfants. Donc, j'ai aucun problème à en parler avec beaucoup de fierté. Donc c'est ça, moi je suis là pour prendre la parole dans les soirées aussi, parce qu'il y a aussi il faut que l'association, pour réaliser tous ses rêves, elle a besoin de financement. Donc elle organise des événements, ce qu'on appelle des soirées de gala, des soirées de charité organisées à Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille parfois. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais on l'a déjà fait à Marseille. Et donc en fait, moi je suis là aussi pour prendre la parole, pour parler, voilà, parler, incarner quelque part l'association, et forcément que c'est plus facile pour moi de parler que le président actuel, qui est un ami, mais qui n'a pas envie de parler. Voilà. Donc c'est moi qui m'y colle, et comme vous le voyez, ça ne me gêne pas trop.
Nicolas ?
Oui, Thierry.
Une question, qu'est-ce qui t'a motivé pour être un membre de ton association ?
En fait, quand je pars, je vous disais que j'avais donc démarré ma carrière à Toulouse et après je suis parti à Bastia. Il se trouve qu'à Bastia, quand je suis là-bas, je reçois, donc c'est en 2002. Mm-hmm. En 2001, l'association a été créée à Toulouse, parce qu'elle est quand même toulousaine à la base. Et je reçois moi une plaquette de présentation de l'association et qui parle de l'engagement des sportifs dans cette association. Il se trouve que ma femme à ce moment-là faisait encore des études sur Toulouse, donc elle était amenée à venir faire des allers-retours entre la Corse et Toulouse. Et en fait, elle a participé à une soirée et en fait, elle a commencé à intervenir en tant que bénévole. Et il se trouve que quasiment dans l'année qui suivait, on est revenu à Toulouse. Et donc, mon engagement a pris de l'ampleur à ce moment-là.
D'accord.
Tout simplement, ça a été fait parce qu'on m'a parlé de l'association au moment de sa création.
Et une petite question éventuellement qui peut être rejointe à celle-ci. Comment devient-on bénévole sur ton association ?
Bénévole association, simplement, je sais que sur le site internet, tu peux contacter l'association, faire acte de candidature. Bon, je crois que tu sais comment on fait être bénévole, parce que tu es pas mal, t'es bénévole de pas mal d'associations aussi. Donc,
c'est ouvert, vous avez
tu es connu comme le loup blanc, Thierry. Non, tout simplement. Après, il y a plein d'événements sur lesquels, pour lesquels l'association a besoin de bénévoles, qui sont ici et ailleurs en France, parce qu'il y a des antennes aussi de l'association partout en France. Donc, c'est simplement, il n'y a pas...
Tout le monde peut vous aider, c'est pas réservé aux sportifs de haut niveau.
Non, je trouve non. Les sportifs, ils interviennent en tant que... Oui, ils sont bénévoles aussi, mais c'est un peu eux qui vont répondre à l'objet de l'association, puisque c'est la rencontre des artistes, des sportifs avec les enfants malades. Mais des bénévoles, ils vont accompagner des enfants sur des événements sportifs, ils vont tenir un stand aussi de récolte de jouets, ils vont faire une... Tu étais venu sur la braderie du cœur qu'on organise pratiquement deux fois par an à Balma, c'était tenu que par des bénévoles. Il y a une trentaine de bénévoles qui tiennent des stands. Donc voilà, c'est ça, c'est donner du temps et permettre à l'association de répondre à ce qu'elle s'est engagée à faire.
Est-ce que tu as toi-même rencontré les enfants malades ? Est-ce que ce sont des moments qui t'ont touché ?
Oui, Christian, bien sûr. Moi, il y a un côté... quand j'étais sportif, je me suis beaucoup impliqué, j'ai beaucoup rencontré d'enfants avec à la fin, malheureusement parfois, c'est pas des happy end, si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas j'ai passé des moments extraordinaires. Moi, mon premier goûter, c'était à Toulouse, hein, à Purpan. Je me souviens d'un gamin qui était en traitement de cancer, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est des services où je voulais aller, parce que forcément, il y a quelque chose qui est différent. Et je me rappelle d'un papa qui me dit simplement qu'une fois la rencontre faite, qui me dit « merci, ça fait 15 jours qu'il est là, c'est la première fois que je le vois sourire ». Et en fait, c'est ça le but. C'est simplement, c'est rien que c'est ça, ça suffit. C'est-à-dire qu'on est là pour vraiment leur donner de la joie. Et donc après, on s'est lié aussi avec des familles, avec des enfants, comme je vous dis, malheureusement, des enfants qui ont perdu le combat contre la maladie. Et aujourd'hui, par contre, c'est vrai que ça, c'est le côté ancien sportif qui a l'impression d'être moins... qui fait moins rêver. Donc moi, je ne vais plus dans les hôpitaux, je ne participe plus au goûter parce que je considère que c'est déjà place aux jeunes et qu'il y a des jeunes qui font beaucoup plus rêver que moi, et ce qui est logique, et que c'est normal que ce soit eux qui soient mis en avant et pas moi. Donc aujourd'hui, je suis plus en retrait en tant qu'ancien que vraiment investi sur les rassemblements dans les dépenses de santé, hôpitaux ou autres.
Parce que si je comprends bien, quand vous le pouvez, vous amenez les enfants sur les stades ou dans les rencontres sportives.
Toutes les semaines.
C'est plus compliqué pour eux. Vous venez à leur rencontre avec les sportifs dans les hôpitaux.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est parfois même les mêmes qui peuvent sortir, qui sont souvent ils sont en hôpital de jour, ils peuvent sortir. Enfin, on essaie de créer tout le temps des choses pour les amener sur autre chose que ce qu'ils vivent au quotidien.
C'est une sacrée logistique quand même.
C'est pour ça que ça demande, oui, la logistique, elle est importante. Ça demande des bénévoles, ça demande aussi de l'engagement au quotidien. Vous savez, c'est une association, on parle de bénévoles, Thierry, mais. Il y a 5 permanents. Quand je dis permanents, ce sont des salariés de l'association. Donc en fait, l'argent qu'on récolte, il sert aussi à permettre de faire vivre ces gens-là qui sont là au quotidien, qui organisent ces événements. C'est pour ça qu'en fait, c'est tout le temps. Et croyez-moi, puisque je le vis au quotidien, c'est un travail qui est permanent. C'est un travail qui est permanent. Et il y a effectivement les bénévoles, il y a des associations qui n'ont que des bénévoles, mais je reste persuadé que si ce n'est pas porté par des gens qui font que ça, à un moment donné, je pense que vous êtes aussi témoin, il y a des gens qui sont là aussi pour tenir quelque chose au quotidien, sinon c'est voilà. Et donc, c'est apporter du bien-être. Aujourd'hui, je parle pour ma femme, c'est vraiment son quotidien, c'est d'organiser ces événements qui vont apporter du bien-être. Et aux enfants, et aux familles. Pas oublier les familles aussi à qui on apporte beaucoup de réconfort.
Mais je te rejoins tout à fait parce que moi-même c'est le cas et je fais pas partie d'une seule association puisque avec la tienne et dont je vais partir et je vais adhérer carrément parce que cela me touche vraiment particulièrement à cœur et de faire quelque chose pour tous ces enfants malades et tout et les sortir de tout un tas de soucis et tout. Mais quand on en a une, on voudrait en avoir 50.
Oui, après,
parce que c'est quelque chose que tu veux...
Bien sûr.
Qui te sort de par le cœur.
C'est pour ça que les gens adhèrent. Et puis il y a un vrai esprit dans l'association. Il y a des gens qui sont là qui ont besoin d'avoir une seconde famille. Mais c'est aussi le but des associations. Je vois bien que l'état d'esprit qui règne ici, voilà, on sent bien que vous êtes il y a quelque chose de très sain qui se dégage de l'association. Donc c'est vachement plaisant.
Et même, je vais en venir et ça va te faire plaisir. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, tu es ici parmi nous et que tu es venu par mon intermédiaire.
Écoute, très bien. Pas de souci.
Est-ce que tu as une idée du nombre de rêves que vous avez réalisés?
Il y en a plein. Le nombre, effectivement, il y a une forme de communication qui est faite sur ça, sur le nombre de sportifs impliqués, le nombre d'enfants malades qui ont été visités ou qui ont participé, et le nombre de rêves. Moi, il y a souvent des rêves qui sont faits un petit peu dans l'urgence, de par justement l'urgence de santé de certains enfants. Et on a organisé, en fin d'année dernière, un baptême de l'air à l'aérodrome de Lasbordes en hélicoptère sur un gamin qui était malheureusement en fin de vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, parce que tu sais que tu amènes un bonheur immédiat. Et donc on est souvent, par contre, c'est vrai que ça, c'est assez récurrent. Les hôpitaux nous contactent souvent pour dans situation d'urgence, en fait.
Et du coup, les soignants sont associés aux événements pour pouvoir assurer la sécurité des enfants, ou au contraire?
Oui, alors il y a eu un avant Covid et un après Covid. L'après Covid, c'est plus compliqué de rentrer aujourd'hui dans les hôpitaux. pour plein de raisons que vous pouvez imaginer, sanitaires et organisationnelles. Mais ils sont impliqués. Vous pouvez pas arriver comme ça en disant la semaine prochaine on arrive avec avec 20 sportifs. Non, c'est préparé à l'avance et en plus on fait ça dans toute la France. Donc ça demande quand même une forme de logistique.
Depuis quand êtes-vous président de l'association ?
Alors je suis président de l'association depuis président d'honneur. Président d'honneur, j'aime bien le préciser ça. Non, depuis 2 ans maintenant, depuis 2 ans.
Comment opter pour Crédition et Oli?
Comment on fait pour rencontrer Big Flo et Oli?
Écoute, c'est dommage parce que tu vois, on se serait connu avant, on aurait pu te convier. En fait, alors, il y a plein de façons de les rencontrer, même s'ils sont très sollicités. Olivio a un côté plus... C'est pas une critique vis-à-vis de Florian. C'est juste qu'il est, il a ce truc-là, en fait, d'aller vers les gens. Il y a le papa, que vous connaissez aussi, Fabien, qui est très impliqué dans l'association. Lui, par contre, il était à la soirée de gala. Il est très impliqué. Ça a démarré... La vraie dynamique a démarré pour ceux qui suivent un peu, peut-être que tu connais Léa, les albums de Big Flo et Oli. Ils ont fait une chanson qui s'appelle La Dernière, tu te rappelles, avec un clip, voilà.
Oui,
et
je la connais.
Tu te la connais, mais tu regarderas la fin du clip. Ils avaient mis le clip tourne autour de sportifs. Il y a Olivier Giroud, il y a Chemeo, la judo 4, il y a Esteban Ocon, et en fait tous ces sportifs ont donné des articles de sport. Et en fait, ils avaient décidé, ils ont contacté les filles de l'asso et ils ont mis aux enchères tous les articles de sport de ce clip-là. Et ça a généré 30 000 euros de recettes pour l'association.
Wow.
Là-dessus, il y a eu Pause Guitare où les enfants ont été avec eux sur la scène, les enfants de l'association, sur la scène. Ah ouais, t'aurais dit.
Je crois qu'il y en a un qui rêve là.
Ah ouais, ouais. Donc en fait voilà, et puis la dernière fois quand Olivio a voulu rencontrer les enfants, donc il y aura d'autres occasions je pense.
Oula.
Et on restera en contact.
Alors là,
on essaiera d'autres cas.
Trop cool.
Bon, ça marche. Je me le note, Léa, ça marche.
Tu vois Nicolas, et tu l'as rendu heureuse.
Mais moi, alors, j'imagine pas quand elle va voir Big Flo et Oli alors.
Regarde comment elle est contente.
C'est bien.
Est-ce que vous essayez de faire des rencontres discrètes par respect pour les enfants ou est-ce que c'est des événements qui sont très médiatisés au contraire?
Alors en fait, regarde, c'est très bien, mais il est bon Christian, on voit que c'est son métier, Il sent qu'il a les questions qui...
C'est notre meneur de jeu.
Ah, il est bon. en fait, tu vois, Antoine Dupont par exemple, sur la dernière soirée de gala, il était venu l'année dernière déjà, il avait été un peu, entre guillemets, saoulé par les sollicitations, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire 2 mètres, les photos, entre-temps il y a eu la Coupe du Monde, vous imaginez. Donc en fait, là il a juste voulu venir à la soirée. Et en fait, il a dit à personne, personne n'est au courant, il a juste voulu déguiser, non pas déguiser. Il est venu sur une soirée, une salle annexe, que pour les enfants. C'est-à-dire qu'aucun convive était au courant qu'il venait. Par contre, tous les enfants qui étaient là ont rencontré Antoine Dupont. Et personne ne l'a su, en fait. Donc, il est venu voir les enfants, il est reparti. Et nous, ça nous allait bien, parce que, bon, bien sûr que les partenaires qui étaient là, qui donnent un peu d'argent à l'association, ils auraient été contents de le voir. Mais ce qui est important, c'est que les enfants le voient, quoi. Voilà. Donc, ça, et en même temps, après, Olivio, par exemple, qui a décidé, à travers Toulouse Football Club, de rencontrer des enfants. Lui, il a juste décidé 2 jours avant qu'il avait du temps, il a dit, faites-moi rencontrer des enfants, quoi. Donc, c'est. Et après, tu peux avoir aussi, à un moment donné, sur un événement, on a amené, on va y revenir cette année, on était à la Clairefontaine pour voir l'équipe de France de football.
Ah ouais.
Et du coup, là, par contre, tu y vas et là, ils sont pas prêts. Enfin, ils sont autour du terrain, ils sortent du terrain et tu vas les solliciter pour avoir un autographe, une photo. Voilà, c'est des rencontres impromptues, quoi.
Mais merci en tout cas, Nicolas, d'avoir répondu avec transparence à toutes nos questions. C'était une super rencontre, je pense, pour
Mais
tous
merci à
et
vous.
Toutes.
Super.
Et bon, je pense qu'on va arriver à la fin de la dernière question qui est indispensable, qui s'impose. C'est ta première visite à Café & Co. Alors, que penses-tu de ce nouveau lieu?
Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Comme je vous le disais en préambule, je trouve qu'il se dégage quelque chose de très positif et de sain. Et je suis ravi d'avoir répondu à l'invitation de Thierry. Vraiment, merci pour ce que vous faites.
Je te remercie.
Et au plaisir de revenir vous voir.
Ah, ah ben oui. Hein.
Le podcast
merci à toi.
Qui fait la différence.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt. Merci Nicolas.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Radio Enco.